Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Forin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, l'angoisse au Sainte-Marie aux Mines dans le Haut-Rhin, d'où sont originaires les Français portés disparus au Québec.
Cela fait plus de 24 heures maintenant qu'on est sans nouvelles de ce groupe de copains partis dimanche pour le Canada. Leur excursion sur le lac Saint-Jean en motoneige a viré au drame. La glace a cédé sous le poids des engins. Leur guide canadien est mort. Il y a 3 survivants, mais les 5 autres sont toujours portés disparus. Ils ont entre 24 et 58 ans. Les recherches se poursuivent en ce moment sur place et dans la région de Sainte-Marie-aux-Mines. Bonjour Yannick Collant.
Bonjour.
C'est à la frontière entre les Vosges et l'Alsace. On espère encore ce matin.
Et oui, les Sainte-Mariens découvrent la nouvelle ce matin en se levant et c'est dur à encaisser pour Sandrine, la buraliste qui découvre l'article dans le journal.
Ah oui. Oh là là. Oh, c'est horrible. Moi, j'étais au Québec et enfin au Canada, ça me glace. C'est terrible, quoi. C'est des gens de 24 ans. Mon fils, il a dans cette tranche d'âge, c'est peut-être des gens qu'on connaît. C'est moche, quoi. Ouais. Mais bon, après, ils vont peut-être être retrouvés. Enfin, on ne sait pas.
Dans la boulangerie voisine, Vanessa, elle aussi, veut encore espérer pour ce groupe de copains partis dimanche au Canada.
On s'inquiète quand même, on ne sait pas qui c'est. Donc, du coup, il y a beaucoup d'inquiétude et on espère que ça va pour eux. Et on, voilà, on pense fort à eux et... On attend des nouvelles avec impatience quand même pour nous rassurer. Quoi. C'est des groupes d'amis, ils sont tous connus ici. C'est des personnes avec qui on essaie à l'école ensemble. Tout le monde se connaît ici, voilà. C'est une petite ville. Donc c'est des personnes voilà, automatiquement que je connais, ça c'est sûr et certain.
Sainte-Marie-aux-Mines qui entretient l'espoir car il y a aussi 3 rescapés dans ce groupe de copains. On attend maintenant un miracle pour les derniers disparus.
Et on suivra ça évidemment dans les heures qui viennent. Merci beaucoup Yannick Collant dans le Haut-Rhin.
RTL Matin 8h02.
Sur le fond des intempéries, hein, dans le sud de la France, le pire est sans doute passé.
Il s'est remis à pleuvoir très fort cette nuit sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Les 2 départements toujours en vigilance rouge à cause du risque de crue. Les transports scolaires sont suspendus pour la journée. On retrouve tout de suite Patrick Tégéro à Toreil dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Patrick.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
On est là près de l'estuaire de l'Agly dont le niveau est monté dangereusement.
Plus de 1800 personnes ont dû quitter leur maison aux abords de l'Agly. Ici à Toreil, la salle des fêtes n'a accueilli en fait qu'une vingtaine d'habitants qui commencent tout juste à se réveiller. Véronique sort de la salle avec son chat dans les bras.
J'ai pas bien dormi. Mais bon, c'était mieux d'être ici que rester chez soi et pas savoir.
Bernadine Sanchez est adjointe au maire et elle a veillé toute la nuit pour que tout se passe bien.
Jusqu'à 22h, on leur a laissé la télé. Et puis à 22h, on a tout éteint. On leur a mis les lits picots. Des couvertures et on les a mis au lit. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, peut-être, ils vont pouvoir repartir chez eux.
Alors, il faut encore attendre le feu vert de la préfecture, mais le niveau de l'Agly baisse de plus en plus. Le maire, Marc Medina, l'a surveillé toute la nuit.
Je suis un peu ému parce que c'est toujours des moments difficiles, parce que on sait que si par malheur, on a une rupture de digue, on peut rencontrer des malheurs humains. Et ben voilà, quand ça s'arrête, on est soulagé.
Le coup de chance, c'est que la mer s'est calmée au moment même où le débit de l'Agly était au plus fort. L'eau a donc pu s'évacuer. Il y a eu tout de même une petite brèche sur la digue, mais qui a été très vite colmatée. Alors on redoute encore quelques orages, mais l'on attend surtout le passage en vigilance orange avec la possibilité que chacun rentre chez soi.
C'était Patrick Tégéro à Toreil, dans les Pyrénées-Orientales. Et puis en Australie, où l'on lutte en ce moment contre les flammes, on a appris tôt ce matin le crash d'un avion bombardier au sud-ouest de Sydney. L'accident a fait 3 morts.
RTL Matin, 8h03.
Paris et Washington appuient sur pause dans leur guerre des taxes.
La France renonce provisoirement à taxer les entreprises numériques. La fameuse taxe GAFA est mise entre parenthèses. En échange, les États-Unis lèvent leur menace de sanctions contre les importations de nos produits. Les discussions continuent, ce n'est qu'une trêve. Hein.
Alors cette taxe est officiellement en vigueur depuis un an, mais au fait, combien nous a-t-elle rapporté? C'est la question du 8h.
Et c'est avec vous Martial You en direct de Davos. Bonjour Martial.
Bonjour.
Est-ce que la France a gagné quelque chose avec cette taxe GAFA?
Alors oui, elle nous a rapporté 400 millions l'an dernier, on a touché l'argent sur 2019, mais on va maintenant être obligé de geler cette somme, la mettre de côté, parce qu'on va peut-être devoir en rendre une partie au GAFA à la fin de cette année. Parce que désormais, la France suspend sa taxe en attendant qu'on mette en place une taxe à l'échelle mondiale. Mais on sait déjà que si on arrive à se mettre d'accord avec les 35 autres pays développés de l'OCDE, déjà c'est pas gagné, hein, eh bien cette taxe sera très vraisemblablement moins élevé que la nôtre. Et donc, on risque d'avoir touché trop d'argent en 2019. Les GAFA vont découvrir les joies des crédits d'impôt à la française.
Et avec cette trêve, Martial, à quoi échappe-t-on ?
Ben, elle est là, la vraie raison du changement de stratégie de la France. Notre taxe GAFA doit nous rapporter en année pleine entre 500 et 600 millions d'euros. Mais en taxant nos vins français, comme le menaçait Donald Trump, les taxes douanières américaines auraient coûté 5 fois plus à nos viticulteurs. Le ministère du Commerce américain avait prévu 2,4 milliards de taxes en plus sur nos vins, sans parler des pertes de parts de marché, parce que ça aurait doublé le prix de nos bouteilles là-bas. Et Donald Trump a mis la pression parce qu'il prévoyait aussi de surtaxer les voitures allemandes ou le parmesan italien. On le voit bien, le bras de fer était largement déséquilibré.
La question de 8h avec Marcia You, donc en direct du Forum économique mondial de Davos, oui, en Suisse, dans les Grisons.
Davos où défilent tous les grands patrons qui comptent et un absent depuis 2 ans, Carlos Ghosn, remplacé depuis quelques mois par Dominique Senard à la tête de Renault. Dominique Senard qui aimerait que l'on tourne enfin la page et il le dit sans citer une seule fois le nom de son prédécesseur. Écoutez.
Je ne vous cache pas que l'ensemble des équipes de Renault, et je le ressens profondément parce que j'assure que ça, là-dessus, je suis très sensible, ont vraiment envie d'entendre parler d'autre chose. Alors je comprends que ça agite les esprits, il faut dire que des histoires fantastiques, les médias, je comprends, se passionnent pour le sujet, mais pour nous, c'est autre chose, c'est un autre monde, c'est quelque chose qui se passe en dehors de Renault. Je ne vous cache pas qu'il y a une forme de saturation en interne dans le groupe sur ces histoires-là. Et on est en train de parler du passé, et autre temps, autre mœurs.
Jean-Dominique Senard, le patron de Renault, qui aimerait qu'on lui parle d'autre chose que de Carlos Ghosn. Boeing a décidément connu des heures meilleures. Le constructeur américain, déjà plombé par la crise de son 737 Max, toujours cloué au sol, a dû repousser le vol inaugural de son nouvel avion qui était prévu aujourd'hui. Le vol du 777X près de Seattle ne pourra pas se faire en raison de la météo. Et puis Donald Trump dans une manif, c'est inédit. Le président américain participera demain à Washington à la marche pour la vie contre le droit à l'avortement. Un signe envoyé à son électorat le plus conservateur à quelques mois de la présidentielle.
Dans un instant, quand les candidats du Rassemblement national au municipal tentent de recruter.
Oui, je peux rentrer, vous parler?
Je me présente comme maire à Istres.
Porte à porte à suivre dans un instant sur RTL.
RTL matin, 8h06. Dimitri.
Citroën.fr. RTL matin.
RTL 8h08, la suite du journal Jérôme Florin, Yves Calvi.
RTL, municipal 2020.
Les candidats ont encore un peu plus d'un mois pour boucler leur liste. Hein.
Car ce n'est pas le tout d'être candidat, il faut avoir des colistiers. Alors c'est plutôt facile quand son parti est bien implanté localement. Ça l'est moins quand il faut faire son trou. À Istres, dans les Bouches-du-Rhône, le Rassemblement National a beau avoir fait 35% aux européennes, 20 points de plus que La République En Marche, sa candidate Rose Criado doit faire feu de tout bois pour trouver des volontaires. RTL en immersion, Marie Mollet.
Oui, elle a déjà les électeurs, mais pas encore les candidats. Encore une quinzaine de noms à trouver pour boucler sa liste Rassemblement National. Alors entre les pavillons,
bonjour, toutou.
Rose Criado s'en remet au hasard et à un bon coup de sonnette.
Oui, je peux rentrer, vous parler?
Je me présente comme maire à Istres.
Si ça vous intéresse d'être sur la liste ou d'être militant, vous
pouvez... Non. Et puis la politique, c'est pas mon truc.
Mais quand la candidate RN croit ferrer un possible colistier, pas question de le laisser filer.
Il me faut les noms, donc il me faut 42 noms pour me présenter, sinon il n'y aura pas de liste Rassemblement National. Je marquerai juste votre nom et vous n'avez rien à faire. Est-ce qu'il peut vous faire remplir le papier maintenant? Ça évite de vous redéranger.
Oui, bah
on
ne
sait jamais, je vous donne le papier.
Ma femme, elle bosse à la mairie d'Istres, ça crée un peu.
À un mois du dépôt des listes, Rose Criado ne peut plus faire la fine bouche. Et tant pis si elle recrute des inconnus sans avoir la moindre idée de leur passé. On verra après.
C'est sûr que là, derrière un grillage, une porte, je ne vois pas du tout le type de personne. Pour le moment, il faut qu'on établisse le plus de feuilles possible. Je pense qu'après, on se renseigne après.
Ici, tout le monde se connaît. Selon Rose Criado, certains électeurs refusent par crainte de représailles.
Le problème, c'est je cherche du travail, je ne veux pas m'afficher Rassemblement National. Mais je vote pour vous. Par exemple, j'ai une infirmière qui est à fond pour moi. Ça fait des années qu'on discute. Là, je me présente, elle me dit c'est super et tout. J'ai dit tu veux te mettre sur la liste? Ah ben non, je pense qu'elle doit avoir peur de perdre la clientèle.
Et en dernier recours, pour convaincre, il y a une astuce bien connue des candidats RN, un petit arrangement avec l'état civil.
Si c'est des femmes, elles ont la possibilité de mettre leur nom de jeune fille quand elles sont mariées. Et quand on a sur la carte d'identité, 1, 2, 3 prénoms, on prend le prénom qu'on veut. Avant qu'on sache que c'est vous.
En tout cas, les militants RN repartent bredouille aujourd'hui. Mais dans toutes les maisons, ils étaient les bienvenus. De toutes les façons, glisse l'un d'entre eux, on fera le plein dans les urnes.
RTL en immersion à Istres, signé Marie Mollet. L'extension de la PMA a été votée cette nuit au Sénat, mais avec un remboursement limité aux interventions justifiées pour raisons médicales, hein, ce qui exclut de fait les couples de femmes, une version qui devrait être corrigée plus tard à l'Assemblée. La ville de Wuhan en Chine, placée en quarantaine, c'est de là qu'est partie l'épidémie de coronavirus qui a fait 17 morts. L'OMS n'a toujours pas pris de décision. Sa réunion d'urgence est prolongée.
Quelle est la portée réelle de cette épidémie ? Nous y reviendrons avec un spécialiste de l'OMS à 8h20.
RTL matin, 8h11.
En basket, l'Amérique s'installe à Paris.
La NBA a pris ses quartiers dans la capitale qui accueille pour la première fois de son histoire un match officiel de saison régulière de la NBA. Point d'orgue demain soir avec les Charlotte Hornets de Nicolas Batum qui affrontent les Milwaukee Bucks. Tout est organisé par les Américains, pour les Américains. Reportage au cœur des préparatifs, Nicolas Georgerot.
Dans la salle, c'est l'effervescence. Pour que tout soit prêt à temps, 262 panneaux de bois forment le terrain. Un parquet au standard NBA, à la brillance absolue, ceinturé de rouge et de bleu. À quelques kilomètres de là, Levallois, dans un autre gymnase. Pendant que les joueurs de Milwaukee visitent le Parc des Princes et les vestiaires du PSG, c'est le premier entraînement des joueurs de Charlotte.
C'est un moment quand même assez émouvant dans une carrière.
Nicolas Batum, le capitaine de l'équipe de France, fait office de guide dans la capitale pour ses coéquipiers.
On n'a pas beaucoup de temps non plus, mais c'est ouais, restaurant, c'est basique. C'est là, ça a été Tour Eiffel, aller au Louvre. Il y en a qui vont Sacré-Cœur, je crois, marcher sur les Champs-Elysées. Enfin, on n'a que deux jours, donc c'est pas évident de faire le tour de Paris, mais d'avoir les principaux spots, c'est important.
Les délégations des deux équipes sont conséquentes. Femmes et enfants ont par exemple fait le déplacement. Nicolas Batum a pris 50 places pour sa famille et ses amis. De 65 à 1500 euros, les 15 000 sièges de l'Arena de Bercy seront occupés demain soir.
Nicolas Georgerot. Et puis en football, c'est le PSG qui affrontera Lyon en finale de la Coupe de la Ligue. Les Parisiens ont battu Reims 3-0.
L'histoire du jour.
Une histoire belge aujourd'hui. Un homme qui s'est évadé de la prison de Turnhout dans le nord du pays a visiblement réussi à se rendre très loin puisqu'il a envoyé à l'administration pénitentiaire une carte postale de Thaïlande avec ses quelques mots. Salutations de Thaïlande. Voilà, on a décidément le sens de l'évasion dans la famille, ouais, puisque son frère est connu en Belgique pour s'être enfui de la prison de Bruges en hélicoptère en 2009.
C'était le journal de Jérôme Florin.
RTL, 8h13, Yves Calvi.
À 8h35, ne manquez pas RTL, vous êtes comme ça. Nous vous emmenons ce matin à la découverte de l'école des Summers, une école qui aide les jeunes en décrochage scolaire à reprendre confiance en eux et à donner tout simplement du sens à leur vie et leur engagement.
En début d'année, j'étais en première, donc au lycée. On m'a un peu obligé à aller en filière générale, alors qu'à la base, ce que je voulais, c'était un peu plus aller soit en pro, soit en technologique. Et pour moi, maraîcher, c'est un métier quand même très sain pour la planète, je pense. Surtout en bio, comme l'école.
Reportage en intégralité tout à l'heure. Il sera 8h35 sur RTL.